Bonjour et bienvenue dans la quatrième dimension. Bienvenue. Cette émission est la première d'une longue série autour du livre tibétain de la vie et de la mort. Pour commencer, nous allons faire cet avant-propos par sa sainteté le Dalai Lama. Ce livre tibétain de la vie et de la mort est celui écrit par Sogyal Rinpoche. Avant-propos. Comment comprendre le sens véritable de l'existence? Comment accepter la mort? Comment aider les mourants et les morts? Tels sont les thèmes sur lesquels Sogyal Rinpoche met l'accent dans cet ouvrage qui paraît à point nommé. La mort fait partie du cours naturel de la vie, et tôt ou tard, nous devrons tous inévitablement l'affronter. À mon sens, tant que nous sommes en vie, nous pouvons l'envisager de deux manières. Soit nous choisissons de l'ignorer, soit nous faisons face à la perspective de notre propre mort, et essayons par une réflexion lucide d'atténuer la souffrance qu'elle peut entraîner. Cependant, aucune de ces deux solutions ne nous permet en effet de triompher d'elle. En tant que bouddhiste, j'envisage la mort comme un processus normal, une réalité que j'accepte, aussi longtemps que je demeure dans cette existence terrestre. Sachant que je ne peux y échapper, je ne vois aucune raison de m'inquiéter à son sujet. La mort est, à mes yeux, plutôt un changement de vêtements vieux et usagés qu'une véritable fin. Cependant, la mort est imprévisible. Nous ne savons ni quand, ni comment elle surviendra. Il semble donc raisonnable de prendre certaines précautions avant qu'elle ne se produise de fait. Bien entendu, la plupart d'entre nous aimeraient mourir d'une mort paisible. Cependant, il est clair que nous ne pouvons y prétendre si nos vies ont été imprégnées de violence ou si nos esprits ont été le plus souvent agités par des émotions telles que la colère, l'attachement ou la peur. Par conséquent, si nous souhaitons mourir bien, nous devons apprendre à vivre bien. Pour avoir l'espoir d'une mort paisible, il nous faut cultiver la paix dans notre esprit, comme dans notre manière de vivre. Ainsi que vous le découvrirez dans ce livre, l'expérience même de la mort revêt du point de vue bouddhiste une grande importance. Bien que le lieu et la nature de notre renaissance future soient généralement dépendants de forces karmiques, notre état d'esprit au moment de la mort peut influer sur la qualité de notre prochaine renaissance. Aussi, malgré la grande diversité des karmas accumulés, si nous faisons un effort particulier au moment de la mort pour engendrer un état d'esprit vertueux, nous pouvons renforcer et activer un karma vertueux et susciter ainsi une renaissance heureuse. Le moment même de la mort est aussi le moment où peuvent se produire les expériences intérieures les plus profondes et les plus bénéfiques. Un méditant accompli, longuement familiarisé avec le processus de la mort par la méditation, peut utiliser sa propre mort pour parvenir à une autre réalisation spirituelle. C'est pourquoi les pratiquants expérimentés s'engagent dans des pratiques méditatives lorsqu'ils sont en train de mourir. Un signe de leur réalisation est que leur corps ne commence bien souvent à se décomposer que longtemps après leur mort clinique. Aider les autres à mourir, à bien mourir, importe tout autant que se préparer à sa propre mort. Chacun de nous fut un jour un nouveau-né sans défense. Et s'il n'avait alors reçu soin et des tendresses, il n'aurait pas survécu. Les personnes en fin de vie sont tout aussi incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Aussi devrions-nous les soulager de leur inconfort et de leur angoisse, et les aider autant que faire se peut à mourir l'esprit calme. Le plus important ici est d'éviter à ceux qui vivent leur dernier instant tout ce qui pourrait perturber leur esprit davantage qu'il ne l'est déjà. Dans l'aide aux mourants, notre objectif majeur est d'apporter aise et réconfort. Il y a bien des façons de le faire. Une personne familiarisée avec une pratique spirituelle peut trouver inspiration et courage lorsqu'on lui rappelle cette pratique. Mais le simple fait de la rassurer avec gentillesse peut aussi engendrer dans son esprit une attitude paisible et détendue. La mort et le processus de la mort constituent un point de rencontre entre le bouddhisme tibétain et les disciplines scientifiques contemporaines. Je crois que leur contribution mutuelle peut être extrêmement bénéfique, tant sur le plan pratique que sur le plan de la compréhension. Sogyal Rinpoche est particulièrement bien placé pour faciliter cette rencontre. Né et élevé dans la tradition tibétaine, il a reçu les enseignements de certains de nos plus grands lamas. Ayant également bénéficié d'une éducation moderne, les nombreuses années durant lesquelles il a vécu et développé son travail en Occident lui ont permis de bien se familiariser avec la pensée occidentale. Ce livre n'offre pas seulement au lecteur un exposé théorique sur la mort et le processus de la mort, mais également les moyens pratiques de comprendre, de se préparer soi-même et d'aider autrui à le faire dans le calme et la plénitude. Cet avant-propos écrit par le Dalai Lama date du 2 juin 1992. Je rappelle ici que si cette thématique est orientée sur le bouddhisme tibétain, c'est dans une optique d'universalité. Chaque pays a sa culture, chaque personne a sa nature. Il est important, dans un souci d'œcuménisme, que chacun puisse entendre les diverses connaissances des cultures différentes, même si elles sont éloignées de la pratique que l'on peut avoir. C'est dans un respect d'ouverture universelle que se situe cette lecture. Voici maintenant la préface de Sogyal Rinpoche. Je suis né au Tibet et j'avais 6 mois lorsque j'entrais au monastère de mon maître. Jamyang Khyentse Shoki Lodro, dans la province du Kham. Il existe au Tibet une tradition unique permettant de découvrir les réincarnations des grands maîtres décédés. Choisis dès leur jeune âge, celles-ci reçoivent une éducation particulière afin de les préparer à devenir les maîtres spirituels du futur. Je reçus le nom de Sogyal, bien que mon maître reconnut seulement plus tard en moi l'incarnation de Terton Sogyal, un mystique célèbre qui fut l'un de ses propres maîtres spirituels et l'un de ceux du 13e Dalai Lama. Mon maître Jamyang Khyentse, de grande taille pour un Tibétain, semblait toujours dominer la foule d'une bonne tête. Ses cheveux argentés étaient coupés très courts et ses yeux pleins de bonté pétillaient d'humour. Il avait des oreilles allongées comme celles du Bouddha. Le plus remarquable, cependant, était sa présence. Son regard et sa prestance attestaient qu'il s'agissait d'un sage et d'un saint homme. Sa voix, riche et profonde, était un enchantement. Lorsqu'il enseignait, sa tête s'inclinait légèrement en arrière et l'enseignement coulait alors de lui en un flot d'éloquence et de poésie. Pourtant, bien qu'il inspirât le respect et même une crainte révérentielle, tous ses actes étaient empreints d'humilité. Jamyang Khyentse est le fondement même de mon existence et l'inspiration de cet ouvrage. Il était l'incarnation d'un maître qui avait réformé la pratique du bouddhisme dans notre pays. Au Tibet, porter simplement le nom d'une incarnation n'était pas suffisant. Il était indispensable de gagner le respect de tous par son érudition et sa pratique spirituelle. Mon maître avait passé des années en retraite. et l'on compte à son sujet nombre d'histoires miraculeuses. Il avait acquis une réalisation spirituelle et un savoir profond. Et je découvris plus tard qu'il était semblable à une encyclopédie vivante de la sagesse. Quelques questions qu'on lui posa, il en connaissait la réponse. Il existait au Tibet de nombreuses traditions spirituelles, mais Jamyang Khyentse était salué comme l'autorité suprême. Pour ceux qui le connaissaient ou avaient entendu parler de lui, il incarnait le bouddhisme tibétain. Il était le témoignage vivant de ce que peut devenir un être qui a réalisé la vérité des enseignements et mené à son terme la pratique spirituelle. Mon maître avait déclaré, ainsi qu'il me fut rapporté, que je l'aiderais à poursuivre son œuvre, et il est certain qu'il me traita toujours comme son propre fils. Ce que j'ai pu accomplir jusqu'à ce jour dans mon travail, l'audience que j'ai pu avoir sont, à mon sens, le fruit de la bénédiction qu'il m'a donnée. Tous mes souvenirs les plus précoces sont traits à lui. Il fut l'environnement dans lequel je grandis et son influence domina mon enfance. Il fut comme un père pour moi. Il m'accordait tout ce que je lui demandais. Son épouse spirituelle, Khandro Tsering Chodron, qui est aussi ma tante, avait coutume de dire « Ne dérange pas Rinpoche, il est peut-être occupé. » Mais je voulais toujours être là près de lui, et lui était heureux de m'avoir à ses côtés. Je le harcelais sans cesse de questions auxquelles il répondait toujours avec patience. Je n'étais pas un enfant sage. Aucun de mes précepteurs ne parvenait à me discipliner. Chaque fois qu'ils essayaient de me battre, je courais me réfugier auprès de mon maître et grimpais derrière lui, où personne n'osait venir me chercher. Blotti là, je me sentais fier et content de moi. Il ne faisait qu'en rire. Et puis un jour, mon précepteur s'entretint avec lui à mon insu, expliquant que pour mon bien, cela ne pouvait durer. La fois suivante, comme je courais ainsi me cacher, mon précepteur entra dans la pièce, se prosterna 3 fois devant mon maître et me traîna dehors. Je me rappelle avoir alors pensé combien il était étrange qu'il ne semblât point craindre mon maître. Jamyang Khyentse vivait dans la pièce où son incarnation précédente avait eu ses visions et d'où elle avait lancé le mouvement de renaissance culturelle et spirituelle qui allait gagner le Tibet oriental au siècle dernier. C'était un endroit merveilleux, de taille modeste, mais à l'atmosphère enchantée, emplie d'objets de peinture et de livres sacrés. On l'appelait le paradis des Bouddhas, la pièce de la transmission de pouvoir. Et s'il y a un lieu au Tibet dont je me souviens, c'est bien de cette pièce. Mon maître s'asseyait sur un siège bas en bois, tendu de lanières de cuir, et je prenais place à ses côtés. Je refusais de manger, si ce n'était pas dans son bol. La petite chambre adjacente était flanquée d'une véranda, mais il y faisait toujours plutôt sombre. Et dans un coin, sur un poêle, une théière était toujours en train de bouillonner. Je dormais habituellement auprès de mon maître dans un petit lit au pied du sien. Un son que je n'oublierai jamais est celui des perles de son mala, son chapelet bouddhique, qu'il égrenait tout en murmurant ses prières. Lorsque j'allais me coucher, il était là, assis à pratiquer. Et lorsque je me réveillais le matin, il était déjà levé, à nouveau absorbé dans ses prières, débordant de grâce et de puissance. Lorsque j'ouvrais les yeux et l'apercevais, je me sentis empli d'un bonheur chaud et douillet. Il se dégageait de sa personne une telle atmosphère de paix. À mesure que je grandissais, Jamyang Khyentse me faisait présider les cérémonies, tandis qu'il conduisait les chants. J'assistais à tous les enseignements et à toutes les initiations qu'il donnait. Plutôt que les détails, c'est l'atmosphère qui me revient aujourd'hui en mémoire. À mes yeux, il était le Bouddha. De cela, je ne pouvais douter. D'ailleurs, tous le reconnaissaient comme tel. Lorsqu'il donnait des initiations, ses disciples étaient si impressionnés qu'ils osaient à peine le regarder en face. Certains le percevaient véritablement sous la forme de son prédécesseur ou sous celle de différents Bouddhas et Bodhisattvas. Tous l'appelaient Rinpoché, le précieux, titre que l'on donne à un maître, et en sa présence, aucun autre lama n'était appelé de la sorte. Nombreux étaient ceux qui l'appelaient affectueusement le Bouddha primordial, tant sa présence était impressionnante. Si je n'ai pas rencontré mon maître Jamyang Khyentse, je sais que je serais devenu quelqu'un d'entièrement différent. Par sa chaleur, sa sagesse et sa compassion, il personnifiait la vérité sacrée des enseignements et ainsi les rendait concrets et vibrants de vie. Lorsque j'évoque avec d'autres personnes l'atmosphère qui régnait autour de mon maître, s'éveille en elle le même sentiment profond qu'elle suscitait en moi. Quel était donc ce sentiment que Jamyang Khyentse m'inspirait? C'était une confiance inébranlable dans les enseignements et la conviction de l'importance capitale du maître. Quelque compréhension que je puisse avoir, c'est à lui, je le sais, que je la dois. Jamais je ne pourrai m'acquitter de cette dette, mais il m'est possible de transmettre à d'autres ce que j'ai reçu. Durant toute ma jeunesse au Tibet, j'ai vu combien Jamyang Khyentse prodiguait un amour rayonnant à la communauté. Particulièrement lorsqu'il guidait les mourants et les morts. Un lama au Tibet n'était pas seulement un maître spirituel, mais aussi un sage, un thérapeute, un prêtre et un médecin de l'âme, qui aidait malades et mourants. Plus tard, je devais apprendre les techniques spécifiques permettant de guider les mourants et les défunts, grâce aux enseignements reliés au livre des morts tibétains. Mais les plus grandes leçons qui m'aient jamais été données sur la mort et sur la vie, je les ai reçues en observant mon maître tandis qu'il guidait les mourants avec une compassion, une sagesse et une compréhension infinie. Puisse une partie de la sagesse et de la compassion immense de Jamyang Khyentse être transmise au monde par ce livre. Puisse-t-il vous permettre à vous aussi, où que vous soyez, d'entrer en contact avec son esprit de sagesse et d'établir un lien vivant avec lui. Fin de cette préface de Sogyal Rinpoché. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les quelques termes qui ont été énoncés vont être un peu plus clairement décrits. Tout d'abord, qu'en est-il de cette notion de karma qui est tant usitée? Le karma. La nuit où le Bouddha atteignit l'illumination, il parvint, dans la seconde veille, à une autre connaissance qui vint compléter sa compréhension de la renaissance, celle du karma, la loi naturelle de cause à effet. Il dit, à l'aide de l'œil divin, pur, au-delà de la portée d'une vision humaine, je vis comment les êtres disparaissaient et revenaient à l'existence, illustres ou insignifiants, dans une condition élevée ou basse, et je compris que chacun obtenait une renaissance heureuse ou malheureuse, selon le karma qui était le sien. La vérité et la force motrice qui sous-tendent la renaissance constituent ce qu'on appelle le karma. La notion de karma est souvent très mal comprise en Occident. On le confond avec le destin ou avec la prédestination. Une meilleure approche est de l'envisager comme la loi inéluctable de cause à effet qui gouverne l'univers. Le terme karma signifie littéralement « action ». Le karma est à la fois le pouvoir latent contenu dans les actions et le résultat de ses actions. Il existe plusieurs sortes de karma. Le karma international, national, le karma d'une ville et le karma individuel. Tous sont inextricablement reliés. Ils ne peuvent être compris dans toute leur complexité que par un être pleinement éveillé. En termes simples, que veut dire karma ? Cela signifie que tout ce que nous faisons au moyen de notre corps, notre parole et notre esprit entraîne un résultat correspondant. Chaque action, même la plus insignifiante, porte en elle-même ses conséquences. Les maîtres font remarquer qu'une dose infime de poison suffit à causer la mort et qu'une graine minuscule peut devenir un arbre immense. Et le Bouddha disait « Ne jugez pas à la légère une action négative sous prétexte qu'elle est de peu d'importance. Même une toute petite étincelle peut embraser une meule de foin de la taille d'une montagne. » Il disait également « Ne méprisez pas d'infimes actions positives en pensant « cela n'a aucune conséquence ». Des gouttes d'eau, même minuscules, finissent en effet par remplir un récipient énorme. Le karma ne se désagrège pas comme les objets matériels. Il ne devient jamais inactif. Il ne peut être détruit, ni par le temps, ni par le feu, ni par l'eau. Son pouvoir ne saurait disparaître tant qu'il n'aura pas mûri. Il se peut que le résultat de nos actions ne soit pas encore arrivé à maturité. Il mûrira cependant, immanquablement, quand les conditions seront propices. Nous oublions généralement ce que nous avons fait, et ce n'est que bien plus tard que le résultat nous atteigne. Nous sommes alors incapables de les relier à leur cause. Imaginez un aigle, nous dit Jigme Lingpa. Il vole haut dans le ciel et ne projette aucune ombre. Rien ne laisse soupçonner sa présence. Soudain, il aperçoit sa proie et fond sur l'animal. Ce n'est qu'au moment où il plonge vers le sol que son ombre apparaît menaçante. Le résultat de nos actions est souvent différé. Il n'apparaît même parfois que dans des vies futures. Il est impossible d'isoler une cause, parce que tout événement peut être provoqué par un mélange très complexe de plusieurs karmas arrivant à maturité au même moment. C'est pourquoi nous avons tendance, pour le moment, à présumer que les choses nous arrivent par hasard, et quand tout va bien, nous disons simplement que nous avons de la chance. Et pourquoi ? Et pourtant, quoi d'autre que le karma pourrait vraiment expliquer de façon satisfaisante les différences extrêmes et extraordinaires qui existent entre les uns et les autres ? Même si nous sommes nés dans la même famille, dans le même pays ou dans des circonstances identiques, nos caractères et les événements de notre vie sont totalement différents. De même que nos talents, nos penchants et nos destinées. Ce que vous êtes est ce que vous avez été, disait le Bouddha. Ce que vous serez est ce que vous faites maintenant. Padmasambhava développait cette idée. Si vous désirez connaître votre vie passée, examinez votre condition présente. Si c'est votre vie future que vous désirez connaître, examinez vos actions présentes. Voici un peu plus détaillé le terme de Rinpoche. Rinpoche, terme de respect signifiant « précieux », attribué au maître hautement révéré au Tibet. Ce titre était largement utilisé dans le centre du pays, mais au Tibet oriental, il était tenu d'une telle estime qu'on avait tendance à ne l'attribuer qu'au plus grand maître. Bodhisattva. Le seul souhait d'un bodhisattva est d'être source de bienfaits pour tous les êtres sensibles. Il dédie par conséquent toute sa vie, tout son travail et sa pratique spirituelle à l'accomplissement de l'éveil afin d'offrir aux autres être la meilleure aide possible. Pour finir, je reviendrai juste sur le maître de Sogyal Rinpoche, Jamyang Khyentse. Il était aussi un leader, l'inspirateur du mouvement de transformation spirituelle. Dans tout ce qu'il fit, il encouragea l'harmonie et l'unité. Il apporta son soutien au monastère, qui traversait des périodes difficiles. Découvrit des pratiquants inconnus d'un grand accomplissement spirituel et encouragea des maîtres de lignée peu connus, les appuyant de telle sorte qu'ils furent reconnus dans la communauté. Doué d'un grand magnétisme, il était comme un centre spirituel vivant à lui tout seul. Toutes les fois qu'un projet devait être mené à bien, il avait le don de réunir les meilleurs experts et les meilleurs artisans. Des rois et princes jusqu'aux plus humbles, il accordait à chacun son attention sans réserve. Il n'en était pas un, parmi ceux qu'il avait rencontrés, qui n'eut une anecdote à raconter à son sujet. Eh bien, merci, cher auditeur. Voici pour cette introduction du livre tibétain de la vie et de la mort, le Bardo Todol, qui s'inscrit dans une longue lignée de lectures. Les futures émissions de la quatrième dimension seront donc consacrées à l'ouvrage du livre tibétain de la vie et de la mort. À bientôt dans la quatrième dimension.